9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Maître Serran vous salue, mes camarades, en ce 26 juillet 2019. Souvenez-vous, vendredi dernier, Maître Serran vous annonçait en toute humilité la victoire probable des Fennecs sur les Lions de la Teranga. Et nos joueurs ont été à la hauteur des espérances de tout un peuple. J'avais l'impression de voir un match de boxe avec Mike Tyson. Tu sais, ces combats qui durent pas plus d'une minute trente. Et là, boum, KO. Merci encore les frères Falartona. Un match de boxe avec Mike Tyson. Tu sais, ces combats qui durent pas plus d'une minute trente. Et là, boum, KO. Merci encore les frères Falartona. Alors déjà que l'Algérien est par principe fier d'être Algérien, mais avec cette victoire, on était au summum. Je me suis senti pousser des ailes aux couleurs de notre beau drapeau. Mairie de Paris se serait honoré de mettre la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe aux couleurs des vainqueurs de la CAN. Mais comme d'habitude, la France n'aime pas beaucoup. L'Algérien, un psychanalyste, dira que c'est le syndrome de la défaite de la guerre d'Algérie. Ça se transmet de génération en génération. Tiens, Dupont-Aignan, par exemple, qui a déclaré que ceux qui préfèrent l'Algérie et ne respectent pas la France, qu'ils retournent en Algérie. Mais l'Algérien est gentleman. Il pardonne à cet homme qui n'a plus toutes ses facultés. Il croit mesquine réellement qu'il est le président d'un parti politique, sauf qu'un parti politique qui compte comme seul membre le reflet de Dupont-Aignan quand il se regarde dans un miroir. C'est insignifiant. Nous, on aime l'Algérie et on a savouré cette belle victoire. Mais on aime la France aussi, c'est pas incompatible. Mais hypothèse, imaginons mon cher Philippe, un jour les relations entre la France et l'Algérie soient à la limite d'une déclaration de guerre. On va pencher de quel côté? Mais à la cima, du côté de Jazayel. Alors arrêtez de nous manquer de respect, mon petit Dupont. Et puis cette victoire est belle car les adversaires ont été à la hauteur. Bravo à vous, les Sénégalais. Vous n'avez jamais mérité votre nom, autant votre nom de des Lions de la Teranga. Ils nous ont fait peur jusqu'à la dernière seconde et notamment ce pénalty. Alors heureusement que l'arbitre ne l'a pas accordé. Ça aurait été d'abord injuste s'il avait été accordé alors qu'il n'y avait pas pénalty. L'histoire aurait pris une toute autre tournure. Il est probable que les supporters algériens en Égypte auraient envahi le terrain. Il est probable que les supporters algériens en France auraient, je ne sais pas moi, allez, déplacer la Tour Eiffel. On est capable de tout. L'Algérien, il n'aime pas l'injustice. Alors heureusement pour l'Égypte, pour la France, que l'arbitre a bien été inspiré et a annulé ce pénalty. Et puis avant de terminer cette chronique, je voulais aussi saluer les déclarations faites par Mohamed VI après la victoire de l'Algérie. Ça me conforte dans l'espoir de voir un jour la construction de ce grand Maghreb. Allez, suffisamment parlé, à vous la parole. 01 53 48 3000, posez toutes vos questions. Émission sous le contrôle de notre arbitre à nous, monsieur Philippe Robichon. Beurre FM, c'est tout droit, c'est parti.
Bien, Maître Serran, avec nous, dernière émission du mois de juillet. Je vous sens avec des envies de vacances, Maître Serran, là, je dois dire.
On est un peu dans l'ambiance vacances, on va pas se le cacher non plus. Et en plus, j'ai débarqué la famille en vacances et je suis tout seul.
Ah, c'est ça en fait. Ouais. Ah ouais, c'est parce que la famille est partie.
La famille est partie.
C'est tristounet.
Un peu.
Bon, qu'est-ce que c'est votre nouveau prompteur là? Qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai pas réussi à imprimer ma chronique. Je la suis envoyée par mail.
Ah, ouais, voilà. Maître Serran a de bons yeux alors.
Enfin de bons yeux. Vous voyez bien que je suis obligé de...
Ah non, mais quand même. Ouais. À votre âge, vous...
Ah, c'est gentil. Ah, ouais, ouais. Ah bah, 65 ans, bientôt.
Vous y voyez encore un petit peu,
mais c'est un peu... J'arrive à voir, mais à partir d'un certain volume, je sais pas, les gros boules, par exemple, je les vois. Si vous voyez ce à quoi je pense.
Non. Alors, moi, pas du tout.
Bon, on est d'accord, alors.
Vous filez un mauvais coton. Je préfère vous le dire tout de suite. Je vais vous laisser tout seul, là, et je m'en vais.
Tendez la perche.
Non, laissez-moi tranquille. C'est tout. Et moi, j'ai rien dit. Bien, alors, je sais pas qu'est-ce qui vous a inspiré ce sujet. Nous allons parler des animaux de compagnie en cas de séparation. Donc, chien, chat, iguane, canaris, poisson. Comment organiser la résidence de nos animaux de compagnie dans le cadre d'un divorce, par exemple? Et qu'en est-il de la prise en charge des frais? De toute façon, pour ce qui en est de la garde, qui est compétent?
Alors, celui qui est compétent... Alors d'abord, vous voyez, on disait, même moi, quand je vous ai envoyé ce sujet, j'ai dit, tiens, un sujet un peu frivole. Mais en fait,
il n'est pas du tout frivole.
Il n'est pas frivole et c'est un sujet qui est débattu de plus en plus souvent maintenant devant les magistrats, et en l'occurrence le magistrat compétent, donc le juge aux affaires familiales. C'est-à-dire le juge que vous allez aller voir... pour votre divorce au moment où vous présentez votre requête. Donc c'est le même magistrat donc qui va être amené à statuer sur cette situation. Il faut savoir que le statut de l'animal a évolué, c'est-à-dire que on a reconnu que l'animal était doué d'une certaine sensibilité, alors qu'auparavant c'était une chose pure et simple et rien d'autre, comme une table, comme un lit. Donc il y a au moins cette évolution juridique et même intellectuelle. Il y a quelques années, quand on évoquait la situation devant un magistrat, on nous regardait quand même avec des gros yeux en disant, mais maître, voilà, je statuerais sur cet animal de la même manière que si je devais statuer sur des enfants. Donc c'est vrai qu'on considérait qu'on était un peu, que tout ça était un peu surréaliste. Les mentalités ont évolué. Et auparavant, cette question de à qui doit revenir cet animal, c'est une question qui n'était traitée qu'en bout de course, c'est-à-dire dans le cadre de ce qu'on appelle la liquidation de la communauté. Quand on partage ses biens, quand on partageait ses meubles, on considérait à ce moment-là, mais je le redis, ça arrive en bout de course, c'est une fois que vous êtes passé une première fois devant le magistrat et ensuite il y a eu la deuxième partie de la procédure et en bout de course, la liquidation de la communauté, l'animal de compagnie faisait partie des objets, entre guillemets, donc qu'on devait se dispatcher, qu'on devait se partager. Donc cette situation et cette ambiance est aujourd'hui terminée, donc on a la possibilité de demander donc à un juge aux affaires familiales de statuer sur le droit de garde, sur la résidence de votre animal de compagnie, comme pour les enfants. Il y a deux aspects. Le premier aspect, il faut savoir que l'animal, entre guillemets, a été évoqué dans des situations où les premières jurisprudences concernaient les couples où on avait un animal, en règle générale c'était un chien, et ce chien était la propriété...
Ou un chat, parce que alors, j'ai appris récemment qu'il y avait deux fois plus ou trois fois plus de chats en France que de chiens.
Alors c'est vrai que, alors pour les chats aussi la question s'est posée, mais j'avais presque... Historiquement, la question s'était posée pour le chien, où la mère des enfants disait, mais moi je ne peux laisser mes enfants, ou je ne peux laisser le père exercer son droit de visite et d'hébergement, qu'à partir du moment où ce père qui était propriétaire d'un chien devait mettre le chien à l'extérieur du domicile de l'appartement quand les enfants arrivaient, parce que le chien pouvait présenter un certain danger. Et ça a été
c'est un autre cas.
Voilà, mais ça a été l'une des premières jurisprudences où l'animal a été introduit dans ce type de litige.
Parce qu'il était considéré comme un objet de danger.
Absolument.
Mais là, quand on parle d'un animal qui est l'objet de l'amour de tout le monde.
La difficulté, entre guillemets.
Le chien, le chat, tout le monde l'aime.
Tout le monde l'aime, et puis même quand on l'aime pas dans ce type d'ambiance, on finit par l'aimer, ne serait-ce que pour embêter l'autre, pour pas dire autre chose. Donc c'est vrai que le combat et la bataille en dehors des enfants se fait maintenant sur cet animal de compagnie, et le magistrat donc va se prononcer donc sur, encore une fois, l'attribution du droit de garde et la résidence, donc qui va évoquer la fréquence de visite de monsieur ou de madame au domicile de l'autre pour voir l'animal, ou alors pour venir le chercher et le récupérer, et on peut statuer aussi donc sur le côté financier, puisqu'évidemment un animal ça coûte aussi des sous, il faut le nourrir,
il
faut l'emmener chez le vétérinaire, donc qui ont eu des animaux, et en particulier des chiens, savent que tout ça coûte des sous. Donc aujourd'hui ça entre dans les mœurs. Alors tous les magistrats sont pas, entre guillemets, sensibles à ça, c'est-à-dire qu'on a parfois des juges qui continuent encore de vous dire que je ne suis pas compétent, c'est le terme, je ne suis pas compétent pour statuer sur ce point. Honnêtement, ça évolue, parce qu'on a aussi eu une décision qui a été rendue par la Cour d'appel pour dire que le magistrat de première instance, donc le juge aux affaires familiales, devait évidemment statuer sur cette question, si cette question devait se poser.
Mais alors, est-ce que on va dire qu'on va calquer la décision et le droit de garde et le droit de visite sur les enfants, ou alors l'animal de compagnie peut faire l'objet d'un traitement qui soit complètement différent, c'est-à-dire qu'on accorde les enfants à madame, par exemple, les animaux à monsieur.
C'est tout à fait possible, c'est-à-dire que et c'est là où on essaie de faire un concours de entre guillemets de bons sentiments, alors parfois légitimes et parfois complètement artificiels. On se pose la question d'abord de savoir dans quelles conditions cet animal est venu au sein de la famille, c'est-à-dire qui a pris l'initiative d'apporter cet animal, c'est monsieur, c'est madame, depuis combien de temps évidemment cet animal est au sein de la famille, puisque ça aussi c'est un critère qui est à prendre en considération. Je précise que ces questions ne se posent qu'à partir du moment où on est dans ce qu'on appelle le régime de la communauté, c'est-à-dire qu'on s'est marié, il n'y a pas de contrat de mariage, mais dans l'hypothèse où vous êtes marié et vous êtes passé préalablement devant un notaire, c'est-à-dire s'il y a un contrat de mariage, si l'animal a été acheté par monsieur, il reviendra de facto à monsieur, et s'il a été acheté par madame, inversement. Donc il y a aussi le régime juridique qui est pris en considération.
C'est-à-dire... Ah oui, là, tiens, ouais. Alors, justement, si on a payé le chien avec son argent, est-ce que on peut considérer que c'est votre propriété ?
Non, si vous êtes dans le régime de la communauté de biens, c'est-à-dire j'ai pas de contrat de mariage.
Donc régime,
le régime en règle générale, ouais, qui concerne 95% des situations qu'on voit passer. Même si monsieur, prenons l'exemple de monsieur, même si monsieur dit mais c'est moi qui ai acheté l'animal, le bien, alors ça m'embête d'utiliser ce terme-là, l'animal que vous avez acheté appartient, même s'il a été payé ou s'il n'avait été payé que par monsieur, il appartient au couple. Donc c'est là où se pose, entre guillemets, la difficulté. Après, tous les divorces ne capotent pas sur la garde d'un animal. Si entre monsieur et madame tout se passe bien, le magistrat va tout simplement homologuer, c'est-à-dire qu'il va prendre acte que monsieur et madame ont décidé que. Mais il y a une chose qui est quand même, en tout cas moi j'ai vu l'évolution, puisque je commence à être un peu vieux dans la profession.
Oui, et puis on peut dire que la justice aujourd'hui se modernise pour épouser un petit peu la façon de vivre de la société.
Alors, mais ça en devient, ou ça pourrait en devenir parfois un peu ridicule, si on peut utiliser ce terme-là, puisque on a parfois des situations où, concernant les enfants, il n'y a pas l'ombre d'une difficulté. Et aujourd'hui, dans certains dossiers, la bataille juridique se joue sur l'animal de compagnie. Donc c'est vrai que c'est toujours assez surprenant d'essayer de comprendre l'état d'esprit de monsieur ou de madame. Mais moi, je vois bien, on a parfois des clients qui vous parlent de leurs animaux, et ils utilisent les mêmes termes qu'ils utiliseraient pour parler de leur enfant. Donc c'est ça qui est assez particulier. Donc si vous n'avez pas, entre guillemets, une sorte de petite sensibilité par rapport à ça, on a du mal à comprendre.
Est-ce que ce sont des clients à qui vous donnez des croquettes quand ils viennent vous voir au cabinet, etc.
Pas encore, mais le jour où on me dira, écoutez, les enfants, je m'en fous, mais mon chien, je suis prêt à tout donner, donc à ce moment-là, effectivement, la question pourrait se poser.
Bon, en tout cas, les animaux de compagnie, aujourd'hui, en état actuel de la justice, sont toujours assimilés à des choses.
Au moment où on se parle, ça reste des choses. Donc c'est vrai que avec le raisonnement d'aujourd'hui, on a aussi du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on considère que l'animal est une chose. Encore une fois, en gros, juridiquement, on fait pas la différence entre un chien et une télé ou un lit. Donc ça peut sembler particulier à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a vraiment, encore une fois, d'abord une évolution au niveau des textes, une évolution jurisprudentielle, c'est-à-dire que les magistrats qui, il y a pas si longtemps que ça, encore une fois, considéraient que c'était vraiment complètement accessoire d'évoquer cette situation ou de discuter de ça, ou de nous dire, bah écoutez, que vos clients règlent ça entre eux. Bah aujourd'hui, les magistrats considèrent que c'est un sujet à part entière. Donc il y a, entre guillemets, chapitre 1, droit de visite et d'hébergement des enfants, chapitre 2, droit de visite et d'hébergement pour l'animal de compagnie. Le jour où le chapitre 2 passera en priorité, là, faudra peut-être un peu s'inquiéter. Mais honnêtement, les magistrats donc ont aujourd'hui cette sensibilité. Bon, c'est, encore une fois, c'est la tendance à l'heure actuelle. Hein, donc,
alors, on l'a bien vu dans l'actualité récente, les animaux peuvent hériter. C'est le cas du chat de Karl Lagerfeld.
Bah, c'est pour ça.
Alors, est-ce qu'une chose peut hériter ?
Le alors. gère concrètement, évidemment, c'est-à-dire que celui qui va hériter, c'est celui qui va exercer le droit sur cet animal, et c'est le cas dans la situation de Lagerfeld. Mais c'est vrai que on pourrait considérer qu'on atteint parfois, bon là c'est assez caricatural, mais on pourrait atteindre parfois le summum du ridicule, parce que dire que un chat, un chien, un cheval va pouvoir hériter d'eux, donc on peut se dire que ça semble assez particulier, mais voyez, c'est souvent le cas, hein, quand il y a une sorte un phénomène comme ça assez particulier, c'est-à-dire qu'au début tout le monde s'en fout et on considère que c'est ridicule d'en parler, et à la fin ça devient aussi ridicule parce qu'on attribue entre guillemets des droits, et là en l'occurrence on est en train de parler d'argent et on se dit c'est quand même assez particulier qu'un animal puisse bénéficier d'une telle fortune. Donc on est parti de très bas pour au bout d'un moment retomber aussi très bas quand on a ce genre de situation et de discours.
Et pendant les vacances, c'est donc Madame Serran qui part avec le pitbull ou c'est vous qui gardez
le pitbull ? Il fut un temps où j'avais un chien, un dog argentin, et puis mais ça coûte une fortune chez le véto, hein. C'est-à-dire que ce chien, qui est un chien de combat quand même, est extrêmement fragile des yeux, donc et des oreilles. Donc
des oreilles, j'allais vous dire aussi, parce que beaucoup d'eczéma.
Et donc c'est un chien qui faisait des otites trois fois par semaine, c'est-à-dire donc il faut l'emmener chez le véto, évidemment, tu peux pas faire autrement. Ouais. Et c'est vrai qu'on se dit que bon, un animal, ça coûte quand même des sous.
Vous l'avez sacrifié à cause de ses oreilles.
Non, le pauvre. Non. Et à l'époque, alors je sais pas si on a le droit de dire ça, mais à l'époque, on était autorisé à couper les.
Ah ouais, c'est plus possible.
Ouais, voilà, c'est plus possible. Et je sais que je m'étais autorisé à faire ça parce que ça donne un chien un peu plus impressionnant, ouais, quand même, joli. Et plus beau. Ouais. Voilà, mais maintenant, c'est plus possible. Hein.
Donc vous voulez plus le chien avec l'oreille qui se rabat.
Non, c'est terminé. Je veux plus de chien du tout. Non. C'est trop de problèmes. Et il faut le savoir, un chien, ça chie partout. Ah, et ça, c'est pas anodin.
Passons le sort.
Ouais, d'accord, mais bon, si vous avez un petit jardin et vous avez la flemme de le sortir régulièrement, vous laissez dans le jardin.
Vous avez de l'engrais pour l'année. Ouais. Maître Serran, alors vous poserez vos questions à Maître Serran dans un instant. Pas de vacances pour Maître Serran au 01 53 48 3000, en tout cas cette semaine. Hein. 01 53 48 3000, proposez et profitez du standard pour lui poser vos questions.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Maître Serran, à qui vous posez vos questions au standard? Il fait drôlement frais aujourd'hui, Maître Serran.
Il fait bon là, non? Moi je supporte pas la chaleur.
Ah c'est vrai?
Oh non, mais je suis un mec d'Algérie, mais qui supporte pas la chaleur. Allez comprendre, mon ADN n'est pas fait pour.
Climatisé quoi.
Ouais, c'est exactement ça, ouais, tant qu'à faire.
Alors on va à Toulouse, Maître Serran et Najette est avec nous. Najette, bienvenue.
Allô?
Oui, Najette, vous êtes la bienvenue.
Oui, bonjour. Je voudrais en fait poser une question juridique à Maître Serran, c'est possible?
Bien sûr, Najette.
C'est fait pour, même.
Exactement, on vous écoute.
Je fais brièvement. Donc, en fait, j'étais mariée avec un monsieur de l'origine turque pendant 14 ans. Donc, on a acheté des biens en Turquie. On a une somme d'argent qui est importante en banque. Par contre, moi, j'ai rien à mon nom. Parce qu'à l'époque, j'avais pas la nationalité turque. Et donc, il a tout mis à son nom. Il a jamais voulu investir en Turquie. Donc, maintenant, je suis en procédure de divorce. Et il voulait rien me donner. Moi, mon avocat, je lui dis, je voudrais quand même récupérer le droit de mes enfants. Et il m'a dit, je peux rien faire. Donc, il faut d'abord avoir ton divorce. Et après, aller en Turquie, voir là-bas, qu'est-ce que tu peux faire?
Bah oui, c'est toute la difficulté dans ce type de mariage, entre guillemets. La question se pose aussi pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Mais c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que, à partir du moment où les biens ont été mis au nom de l'un ou de l'autre, ça ne pourra se régler que dans le pays d'origine de monsieur. Sur le territoire français, si monsieur dit mais ces biens sont à mon nom, le juge aux affaires familiales n'aura pas le pouvoir d'exiger Alors j'ai n'importe quoi, mais de rapatrier des fonds si c'est une histoire d'argent, ou d'exiger que le bien soit vendu et que le produit du bien soit partagé entre vous et monsieur. Donc faut quand même se méfier de ça. Moi j'ai beaucoup de dossiers. Alors honnêtement, pas beaucoup concernant la Turquie, mais beaucoup évidemment concernant les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, et c'est une question qui est assez récurrente. Quand vous achetez un bien dans ces pays-là, à partir du moment où votre nom officiellement n'apparaît pas sur le titre de propriété, le statut que vous avez sur le territoire français, c'est-à-dire le partage des biens, la communauté de biens, c'est un statut qui s'applique pas dans ces pays-là. Dans ces pays-là, si le bien est au nom de monsieur, quand bien même il aurait été financé par monsieur et madame, ou quand bien même il aurait été financé par madame et que le bien est au nom de monsieur, eh bien, le juge français va être, en droit on dit, incompétent pour statuer là-dessus. C'est-à-dire qu'il va dire, mais moi, je peux pas me prononcer là-dessus. Retourner ou aller dans le pays d'origine et puis voyez ce que ça dit. Mais ça dira tout simplement que si le bien est au nom de monsieur, il restera au nom de monsieur.
Donc, si j'ai bien compris, Maître Serras, c'est-à-dire qu'en fait, même là-bas, la Turquie, c'est un pays laïque et qu'il a le droit un peu, comme l'Europe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je perds pas mon temps de aller là-bas et perdre mon temps.
Écoutez, je vous dirais des bêtises en vous disant que je suis un spécialiste du droit turc, mais alors ça vaudrait encore une fois, d'abord ça vaut le coup de poser la question à un avocat sur place, mais oui. Vous aurez a priori la réponse que je vous ai apportée en disant que si c'est exclusivement au nom de monsieur, il est madame peu probable. Même si ça peut être dur à entendre et c'est même injuste en soi, il est peu probable que les autorités turques se prononcent sur un partage moitié-moitié concernant ces biens-là. Donc a priori, alors c'est terrible, j'allais dire les biens sont perdus pour vous, mais oui, ça correspond à une réalité. Donc selon moi, il est ou il serait inutile de perdre votre temps, si je peux me permettre l'expression, donc de courir après des biens qu'il est très peu probable que vous puissiez récupérer.
Parce que moi, j'ai appelé un avocat turc parce que je parle le turc, ouais. Donc j'ai appelé un avocat turc.
Ouais.
Il m'a dit même, parce qu'en fait, il y a une loi qui est passée, il m'a dit je ne sais pas quand, il m'a dit qu'en fait maintenant, même si, parce que j'ai la nationalité turque aussi, donc il m'a dit même si il a dissimulé en fait les biens à quelqu'un d'autre ou n'importe, qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il est parti pendant un an et demi en Turquie, à
ouais.
Un moment donné. Donc, je me suis dit, même si tout il est à son nom, il peut le donner à quelqu'un en attendant que la procédure soit terminée. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Il m'a dit, même si il aurait fait ça, tu as le droit. Parce qu'en fait, vous avez acheté tout ça, étant marié. Vous êtes, lui, il avait rien.
Ouais, alors je encore une fois, bon, si vous me dites que c'est un avocat turc, il a probablement beaucoup plus de compétences que moi en la matière. Il y a pas de doute. Mais j'ai du mal à comprendre son raisonnement. Je le redis, c'est-à-dire que si j'achète un bien qui serait financé que par madame. Donc je parle encore une fois et j'ai un peu plus de connaissances concernant les pays du Maghreb, mais j'achète un bien qui est ou qui serait financé exclusivement par mon épouse. Au moment du divorce, au moment de la séparation, comme on est dans un régime de séparation de biens, si ce bien a été mis qu'à mon nom, quand bien même il aurait été financé par madame, c'est un argument qui ne passerait pas. Il D'accord. a été financé par madame, mais le bien, il a été mis à mon nom.
Okay.
Donc c'est... Alors, le très souvent, on me dit, oui, bah alors bon, comme c'est mon mari... alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est souvent les maris hein, qui font ça, c'est un constat. On était mariés, je lui fais confiance. Alors oui, évidemment, on est mariés, on se fait confiance, sauf que la confiance peut parfois s'éroder au cours du temps, donc il faut faire attention à ça. Et c'est pas être insultant que de dire à son mari, d'accord, on s'aime, mais j'aimerais quand même que mon nom apparaisse. C'est aussi une question de sécurité, quelque part. Et puis, si le mari n'a pas de doute sur son comportement, il devrait accepter spontanément. Enfin, il devrait même dire, bon, on va acheter un bien, on va le mettre à nos deux noms. Donc, mais c'est pas un réflexe qu'on trouve très souvent. Et si le bien est au nom exclusif de monsieur, vous risquez de vous asseoir sur cet argent ou sur cet investissement.
Ouais, mais ça, moi déjà, je me suis dit, bon, j'ai laissé tomber parce que j'ai dit, je ne vais pas courir, c'est bon, c'est que de matériel. Mais quand je regardais dans le fond, quand je me suis calmée et tout, c'est quand même un droit à mes enfants. Moi, personnellement, je ne veux rien, mais je dis au moins qu'elle donne aux enfants, parce que quand même, on a deux enfants ensemble et qu'elle ne les assume pas, donc je dis quand même au moins qu'elle donne quelque chose à mes enfants. Mais bon. Je me suis dit, au moins, allez, peut-être pour, je me bats pour mes enfants, pas pour moi.
Enfin, non, vos enfants sont aussi les enfants de monsieur.
Comment ?
Non, mais les enfants sont aussi les enfants de monsieur. C'est-à-dire, si je suis votre raisonnement, enfin, sauf si monsieur est un mari qui peut être ingrat, et ça, à la limite, on peut l'entendre et le comprendre, mais est-ce qu'il serait ingrat à l'égard de ses enfants ? C'est-à-dire qu'il pourrait également, entre guillemets, les spolier et faire en sorte qu'ils aient rien du tout ? Votre raisonnement est un raisonnement que monsieur peut tenir. Il peut dire, mais ce sont mes enfants, donc il n'y a aucune raison que oui. je leur cache ou que je leur supprime ces biens-là.
Je lui dis, ne me donne rien, tu le fais juste au nom, ma part, tu le donnes au nom des enfants, elle n'a pas voulu. Il m'a dit, si tu as quelque chose, va le chercher. Voilà.
Ouais, mais alors c'est souvent comme ça. Vous savez, il y a pas beaucoup de procédures de divorce. Alors dans ce cas particulier, mais même entre guillemets franco-français, il y a pas beaucoup de procédures de divorce quand on parle de biens où on parle de manière apaisée. Bon, on a des histoires de gros sous. Il y a un peu de haine parfois entre monsieur et madame. Donc c'est vrai que on a toujours du mal à parler argent à ce moment-là.
Bref, donc c'est bon, j'ai compris que c'est pas la peine que je me bats pour rien, je vais perdre mon énergie pour rien.
Ouais, je crois qu'il vaut mieux consacrer votre énergie à autre chose.
Exactement. Bon, merci,
Maître Serin. Merci à vous, Najed, pour votre appel.
Au revoir, bonne journée.
Merci. Hamza est avec nous, 01 53 48 3000. Hamza, bienvenue.
Oui, bonjour, Philippe. Bonjour, Maître.
Bonjour, Hamza.
S'il vous plaît, je vous appelle par rapport à un dossier. J'ai ma cousine qui a déposé un dossier à la préfecture de Marseille. Elle est rentrée en France en 2012.
Ouais.
Là, vous m'entendez maintenant ?
Oui, complètement. Allez-y, Hamza.
Donc, en 2012, la demande n'a pas été acceptée pour le motif qu'il manque de preuves de vie commune. Donc, elle a eu deux enfants. Donc, elle a redéposé la demande, mais toujours pareil, elle a été refusée.
Alors, il y a un motif particulier qui est invoqué par les autorités préfectorales. Qu'est-ce qu'on lui dit ?
Manque de preuve de vie.
D'accord, manque de preuve de vie. Donc, alors, en règle générale, quand c'est comme ça, c'est-à-dire que les autorités préfectorales, quand vous leur dites... Je suis rentré sur le territoire à telle ou telle période, alors si vous êtes rentré de manière... entre guillemets légal, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez, enfin vous avez un visa et un petit cachet sur le passeport, elle est rentrée régulièrement.
Oui, elle est rentrée régulièrement avec un visa d'affaires.
D'accord, donc c'est vrai que bon.
Mais elle est passée par l'Espagne.
Elle est, pardon ?
Elle est passée par l'Espagne. Elle est rentrée par l'Espagne.
D'accord. Mais on peut établir, voilà, on peut établir une date d'entrée sur le territoire français. Ensuite, les autorités préfectorales demandent, mais ce qui est normal, de pouvoir apporter des preuves et des éléments pour dire que madame est bien en France depuis 2012. Donc,
mais elle a fourni toutes les preuves, quoi.
Ouais.
Elle a deux enfants. Il y a une fille qui est scolarisée, l'autre bientôt, elle sera scolarisée bientôt.
Et malgré ça, ils considèrent qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments.
Malgré ça, voilà. Ça fait depuis 6 ans maintenant.
Alors, j'ai cru comprendre que c'était la deuxième demande de la part de madame.
Non, depuis 2012, quoi. Depuis 2012.
D'accord, mais quand.
Chaque année, elle fait une demande. Pareil,
non, mais. Pareil. Là, ça ne sert à rien. Alors, monsieur, ça ne sert à rien de faire des demandes chaque année. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où vous faites une demande. Et que les autorités préfectorales refusent. Donc, ils vont dire, voilà, on refuse pour tel ou tel motif. Si vous considérez que tous les éléments qui justifient la présence de madame sur le territoire français depuis l'année 2012, c'est-à-dire toutes les preuves de sa présence sur le territoire français, si elle a tout ça sous le coude, bah, ça vaudrait peut-être le coup de saisir un tribunal administratif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Quand votre interlocuteur, la préfecture, vous répond négativement, alors soit vous dites, je vais recommencer à nouveau, mais là, je crois comprendre que, voilà, recommence et on lui dit à nouveau non. Mais pour la simple et bonne raison que si je suis la préfecture et que je vous ai dit non une première fois, vous venez me voir une deuxième fois pour dire je vais redéposer un dossier. Évidemment, sur un plan purement informatique, le dossier de madame va apparaître sous les yeux de la préfecture. Et ils vont quand même se dire, tiens, on lui a dit non une première fois, elle n'a pas contesté. C'est, elle n'a pas été devant le tribunal. Ça laisse entendre, ou ça pourrait laisser entendre, qu'en fait, la préfecture avait raison de refuser. Puisque madame, à leurs yeux, madame n'a pas été devant le tribunal, donc c'est qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments, elle n'a pas suffisamment de motifs. Donc c'est vrai que, je l'explique assez souvent, il n'y a pas d'obligation évidemment d'aller devant un tribunal quand une préfecture vous refuse, mais sur un plan, on va dire, purement stratégique, si je vous dis non une première fois et vous contestez pas, moi je considère que, comme on dit, qui ne dit mot consent, voilà, si je vous demande de partir, vous contestez pas, c'est que vous considérez que j'ai raison de vous demander de partir. Donc voilà, voyez, donc quand on fait pas le recours devant le tribunal au premier refus, honnêtement, faut pas s'attendre à avoir une réponse positive au deuxième ou au troisième dossier déposé auprès de la préfecture. Alors, il y a rien qui lui interdit de le faire maintenant, mais voilà, il faut, il y a une logique.
Je vais vous dire une chose, maître. Là maintenant, son mari, il a trouvé un travail sur Paris. Donc, apparemment, il compte déménager, d'après ce qu'elle m'a dit, bien sûr. Donc, est-ce que je peux pas avoir votre numéro pour la suivre dans ses démarches ?
Si, bien sûr. Si, vous avez de quoi noter ?
Ouais, j'ai un stylo, il fait devant moi. Ouais.
Alors, je suis joignable au 06 62 58 59 64.
64.
Ouais, 06 62 58 59 64. Pardon ?
06 62 58 59 64.
C'est ça, c'est ça.
Vous avez des horaires ou je peux vous appeler à tout moment, monsieur
le maître ? À partir de 13h ? En tout cas, pour aujourd'hui. Sinon, les autres jours, on peut m'appeler à tout moment, mais aujourd'hui, à partir de 13h.
Uniquement aujourd'hui, sinon tous les jours, voilà. D'accord, maître. Mais donc, elle peut faire la demande d'essai,
Après, si la famille déménage sur Paris, bah oui, c'est-à-dire que ensuite la demande se fera auprès de la préfecture du nouveau domicile.
Exactement, non, ils vont déménager puisque son mari a trouvé un travail ici, donc voilà, comme je vous ai dit, ça fait 6 ans qu'elle est en France, elle a 2 enfants scolarisés, une fille qui est scolarisée, l'autre bientôt, donc voilà.
Donc il y a rien qui interdit de reformuler. Alors il y a des petites conditions qu'on pourrait éventuellement voir, mais il y a rien qui évidemment interdit de reformuler une nouvelle demande.
En règle générale, voilà. D'accord,
merci. Voilà, Hamza.
Je vous remercie infiniment.
Merci à vous pour votre appel.
Comme ça, elle va prendre contact avec vous.
Eh ben, écoutez, avec plaisir.
Plaisir à nous. Merci beaucoup, maître.
Merci, Hamza.
Merci Hamza pour votre appel. Alors évidemment, vous appelez Maître Serran après l'émission, hein, puisque pendant l'émission, il ne peut pas faire deux choses à la fois. 01 53 48 3000, profitez du standard de Beurre FM si vous souhaitez passer en direct sur notre antenne. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Maître Serran, hein, qui a vécu le plus beau jour de sa vie, hein, vendredi dernier.
Non, alors le plus beau jour de ma vie, c'est lorsque je me suis marié, mon cher Philippe. Bah, ne mélangez pas tout et n'importe quoi, s'il vous plaît.
Ouais, parce que... Mais Madame Serran n'écoute pas.
Bah, je ne sais pas, mais dans le doute.
Ah ouais.
Faut faire plaisir à Madame Serran. Bah, et dans l'hypothèse où elle
écouterait
pas...
Il va falloir lui envoyer l'enregistrement.
Non, mais non. Dans l'hypothèse où vraiment elle n'écouterait pas, mais bien sûr que la victoire de l'Algérie... Mais c'était magnifique. C'était quasi jouissif. C'était extraordinaire. Alors, on n'a jamais été aussi fiers d'être algérien. Mmh. Voilà. Et Dieu sait qu'on l'est tout le temps, hein, fierté puissance 1000. Mais là, c'était top.
Ouais, bien. Voilà. Ouais, heureusement, Maître Serran, on lui a changé ses gouttes. Là, il est bien.
Ouais, ouais.
Alors, on a Linda qui vous appelle, Maître Serran. Linda, bienvenue.
Allô ?
Oui, Linda, bienvenue.
Oui, bonjour, Maître.
Bonjour, Linda.
Bonjour, je vous appelle en fait parce que j'avais une question par rapport à un bien que j'ai acquis en Algérie avec mon mari.
Mmh. Ouais.
Donc en fait, le bien, il a été financé avec une partie de nos économies ici et on a fait un crédit, on a contracté un crédit là-bas sur place.
D'accord.
Et au niveau du notaire en Algérie, comme le crédit en Algérie est au nom de monsieur, du coup l'appartement est au nom de monsieur aussi.
Ouais.
Et je voulais savoir si moi j'avais quand même des droits ou pas.
Bah là, au moment où on se parle, et d'ailleurs vous répondez vous-même à la question, on va raisonner par rapport au nom qui va apparaître sur le titre de propriété. Et si le nom qui apparaît sur le titre de propriété est exclusivement celui de monsieur, juridiquement parlant, si demain il y a la moindre difficulté entre vous, Linda, ce bien restera le bien propre de monsieur.
Mais en fait, le notaire lui a dit qu'il fallait mettre le bien à son nom parce que le crédit bancaire en Algérie était à son nom aussi.
Alors c'est terrible parce qu'il m'arrive parfois de penser que le ou les notaires seraient presque en bisbille avec les hommes dans ce type de procédure. Mais juridiquement, il n'y a rien qui interdit ou interdirait à ce que ce bien puisse être, en tout cas à l'époque, mis au nom de monsieur et madame. Je vous le redis, la difficulté, c'est que les magistrats, et c'est pas parce que les magistrats sont ou seraient méchants avec madame, c'est qu'ils vont simplement appliquer la loi. J'ai pas à partager un bien où officiellement sur le titre de propriété, il est écrit que c'est monsieur. On va considérer que monsieur est le seul propriétaire du bien. Et je le redis, c'est pas le moi j'en veux pas aux magistrats, c'est la loi qui peut éventuellement être critiquée ou qui devrait évoluer, mais le magistrat va simplement appliquer des règles. C'est comme si vous disiez sur le territoire français on se marie mais on est dans le cadre de la séparation de biens. Monsieur va acheter un bien, quand bien même vous participeriez au financement de ce bien, le bien est au nom de monsieur et puis il est la propriété exclusive de l'intéressé. Donc il faut quand même vraiment faire attention à ça parce qu'on a beaucoup de désillusions. Et le pire du pire qui puisse arriver dans ce genre de situation, c'est que on apprend parfois, alors tous les hommes sont pas comme ça évidemment, mais on apprend parfois que le bien va être occupé par la seconde ou la future épouse de monsieur, et ça évidemment ça peut-être parfois, je peux comprendre, donner des envies de meurtre, et c'est terrible de s'entendre dire ça, et très souvent, voilà.
Surtout que le bien, il a été financé par nos revenus à tous les deux, que ça soit les économies qu'on a mis dedans au début, et même le crédit au jour d'aujourd'hui qui a toujours cours en Algérie, il est payé avec nos revenus français à tous les deux. Donc, ouais. Je veux dire, il n'y a pas de sur ça, il n'y a pas de mystère. On l'achète tous les deux l'appartement.
Ouais, alors, mais
le notaire qui a dit qu'il fallait que ça soit à son nom parce que le crédit est à son nom, c'est un peu ça qui nous a induit en erreur. Mais est-ce qu'on peut changer l'acte de propriété?
Ah, alors écoutez, là encore, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Vous voyez, sur le territoire français, on peut changer de régime matrimonial, c'est-à-dire le passé de biens communs, séparation de biens ou inversement, mais c'est une procédure devant un tribunal, c'est une procédure qui est assez lourde. Je vous dirais des bêtises concernant ce type de changement au pays. Il faudrait vraiment poser la question, si ce n'est un avocat, au moins un notaire. Mais au moment où je vous parle, avec les critères que vous venez d'énoncer, si demain il se passe la moindre difficulté, je vous le redis, un magistrat, et c'est pas parce que le magistrat n'aime pas madame, mais un magistrat va appliquer la loi et puis va se baser sur le nom qui apparaît sur le titre de propriété, ce qui est le bon sens. J'ai que monsieur qui apparaît, il n'y a aucune raison que je considère, moi, magistrat, tout seul, tiens, le bien va, il va appartenir. Et à monsieur et à madame, non, on fait du droit. S'il n'y a que le nom de monsieur sur le titre de propriété, c'est monsieur et personne d'autre.
D'accord.
Donc il faut même être prudent par rapport à ce type d'achat, parce qu'en règle générale, évidemment, quand on achète, c'est que tout se passe bien au sein du couple et on est heureux et on a plein de projets. Bon, sauf que la vie, c'est pas que ça. Donc il faut quand même faire attention à ce genre d'enthousiasme. Et j'ai bien conscience que c'est pas
très audible, hein, ce que je vous dis là, hein, quand tout se passe bien au sein d'un couple. Mais voilà, la vie, c'est aussi ça. Et quand on est en mode séparation, je peux vous assurer que ces arguments purement juridiques en faveur de monsieur, ben, reviennent à la face de madame en disant, ouais, mais le bien, il est qu'à mon nom. Et donc, c'est dur parfois à entendre.
Bien sûr. Bon, bah, vous avez répondu à ma question. Du coup, ce qui me reste à faire, c'est de me renseigner sur place pour voir.
Ouais, franchement, voilà, ce serait, voilà, vous aurez davantage de précision et il vaut mieux poser la question, encore une fois, si ce n'est un avocat, à minima un notaire.
Très bien. Merci d'avoir répondu à ma question.
Merci, Linda.
Très bonne journée.
Merci Linda. Journée. Walid est avec nous, 01 53 48 3000. Walid, bienvenue.
Ouais, bonjour.
Bonjour Walid.
Merci, bonjour maître Fred.
Bonjour Walid.
Alors moi de mon côté j'ai une petite question, c'est vraiment à titre d'information par rapport à une situation que j'ai vécue il y a quelques jours. Sur l'achat immobilier, en fait, j'aimerais connaître la valeur d'une offre d'achat, pas d'un compromis, mais d'une offre d'achat. Et je vous explique la situation. Alors, on est passé par une agence, on a visité un bien pour lequel il y avait déjà des offres en dessous du prix. On a fait une offre au prix sur conseil de l'agent pour quelque part arrêter les discussions. On était parti pour signer un compromis de vente et l'agent nous rappelle en nous disant il y a une offre qui est au-delà du prix, une surenchère. Et donc on était un peu étonné de la pratique et je voulais savoir, avoir un peu votre avis là-dessus.
Alors sur le principe, c'est-à-dire que je suis moi le propriétaire, j'ai X propositions, alors par définition évidemment je vais accepter la plus haute, mais à partir du moment où en droit on dit quand on est d'accord sur le bien et sur le prix, c'est-à-dire on sait que c'est tel bien que vous voulez acheter, que vous faites tel prix et que dans un premier temps le proprio, la partie adverse, accepte d'aller plus loin, on considère que l'affaire est scellée. Vous avez signé quoi comme document, très précisément ?
C'est une offre d'achat manuscrite. Ah, c'est bien ça. On n'a eu aucun retour formel par écrit du propriétaire. Globalement, l'agent nous a dit que, qu'il avait pu faire de visite et que théoriquement, enfin, vu notre offre au prix, elle serait à nous. Donc nous, ça nous a un peu rassurés, on était contents.
Ouais.
Finalement...
Mais ouais, quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il vous a pas dit ça après un petit coup de fil au proprio pour dire ok, je vais accepter telle proposition. C'est-à-dire c'est le discours de l'agent, ça.
Voilà, c'est le discours de l'agent sur place. Bon après, j'ai fait un mail pour demander des éléments complémentaires quant au bien, hein, sur les dossiers techniques et compagnie. Il m'a dit qu'il allait relancer le propriétaire sur ces sujets-là. J'ai eu des éléments de réponse, donc j'imagine formalisé par le propriétaire, mais bon, j'ai pas eu la vue ni le contact avec le propriétaire. J'ai eu un mail qui me disait que on pouvait se positionner pour un rendez-vous en fin de semaine pour signer le compromis.
Ouais.
Et après, un appel pour nous dire bah finalement on pourra pas signer le compromis cette semaine parce que le syndic est pas là, une petite copropriété. Et bon, j'ai pas tout compris, mais je me suis dit pourquoi pas.
Ouais, ça peut arriver. Bien sûr.
Voilà. Et puis après, le lendemain. Finalement, on a une offre qui est 10K au-dessus du prix. Est-ce que vous alignez ou pas? Grosso modo, sinon c'est perdu.
Ouais, mais alors c'est vrai que si il n'y a pas de compromis signé entre vous, ça va, entre guillemets, ça pose difficulté, puisqu'il n'y a pas d'acte de formel où vous faites la proposition et moi, propriétaire, je dis, écoutez, je vais accepter la proposition et après, vous demandez un crédit ou ce que vous voulez. Donc, ça reste une offre. Maintenant, il n'y a rien qui vous interdirait, mais honnêtement, je conseille pas forcément ce type de procédure, mais vous pourriez être amené à considérer que le refus est un refus, comme on dit en droit, qui est abusif, que ça vous a créé un préjudice, mais vous voyez où je veux en venir. Ça voudrait dire, voilà, engager la responsabilité du proprio et honnêtement, alors d'abord, un, c'est long, deux, l'avocat est obligatoire, donc ça va quand même coûter des sous, et trois, la probabilité d'obtenir gain de cause n'est pas extrêmement forte.
C'est-à-dire que la question de principe, dans ces cas-là, il vaut mieux s'asseoir dessus.
Franchement, oui, alors évidemment, c'est de la déception, c'est ce que vous voulez, mais je crois que c'est plus le côté légèreté de l'agent que qu'un problème avec le propriétaire, donc c'est ça qui est un peu injuste. Mais ouais, je crois qu'il, sauf à vous aligner évidemment, mais sinon entre guillemets passer à autre chose. Quand ça commence comme ça, déjà c'est ça n'augure rien de bon.
Exactement. Alors, je suis passé à autre chose. Hein. Moi, c'était juste finalement je voulais connaître un peu le bien fondé, ce que représentait une offre d'achat. Parce que sur le principe, je me suis dit, mais dans ce cas-là, enfin, je veux dire, je peux écrire une heure sur mon offre d'achat. Je vais le dire un peu crûment, mais si jamais un copain de l'agent a fait une offre après, mais qui décide de la présenter avant, comme fait avant, de mon côté, je pense que, enfin, du côté client en particulier, acquéreur, est-ce qu'il y a des possibilités d'action ou pas? C'est la question que je me posais.
Non, mais c'est, encore une fois, c'est-à-dire que si je dois vous répondre sur un plan purement théorique, bien sûr qu'il y a des possibilités d'action. Maintenant, si c'est pour dépenser des sous, aller voir un avocat et se dire, tiens, théoriquement, peut-être que... voilà, donc c'est de l'énergie, de l'énervement et des sous.
Ça fait du bien, c'est tout.
Non, mais bien sûr, voilà. Mais et vous avez eu raison de passer à autre chose si vous êtes passé à autre chose. Et je vous dis, en règle générale, quand ça commence comme ça, bon, il vaut mieux ne pas insister. Ouais, voilà, en disant, bon, bah, il fait le malin. Et ben,
faut faire son deuil.
Ouais, complètement. Et essayer de trouver autre chose.
Bon, je vous remercie.
Merci à vous, Walid, pour cet appel.
Merci, au revoir.
Au revoir, Walid.
Et est-ce qu'on a le temps de prendre très rapidement Hassen? 4 minutes, Hassen, bonjour et bienvenue.
Oui, allô, bonjour.
Oui, Hassen.
Bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Hassen.
En fait, je vous expose ma situation. Là, actuellement, je suis en... Comment on appelle ça? Je suis en contrôle judiciaire.
Oui.
Suite à la plainte de madame. C'est plainte de violence et de viol conjugal.
Ouais.
Là, bon, je ne vais pas vous en parler parce que l'affaire est en cours. Et juste en fait, ce que je demande, c'est par rapport à. En fait, moi, j'ai 3 enfants avec mon épouse. Et moi, j'aimerais passer le restant du jour avec au moins élever mes enfants avec madame. Parce que,
ouais, enfin là, moi, c'est, ça semble un peu compromis quand même, non? Parce que quand je vous écoute, c'est-à-dire que c'est votre volonté, je peux l'entendre et le comprendre.
Oui.
Mais une fois qu'on s'est dit ça, c'est-à-dire que sauf à ce que madame revienne sur, j'imagine, toutes les déclarations ou accusations qu'elle a pu porter, une fois que vous dites ça, ça n'engage que vous, entre guillemets.
Oui.
Enfin, sauf si vous avez peut-être une question plus précise.
Ben non, mais c'est au cas où elle demande le divorce.
Ouais.
Est-ce que j'ai le droit de refuser ou pas?
Ah, mais sur le principe, vous pouvez évidemment refuser le divorce, sauf que pour rester marié, il faut que les deux décident de rester mariés. Et là, si vous me dites que vous êtes placé sous contrôle judiciaire pour les faits que vous avez évoqués, vous imaginez bien que le juge aux affaires familiales va prendre ça en considération et que le divorce, a priori, il sera prononcé pour faute. Donc même si vous dites lors de la première audience, ce qu'on appelle la tentative de conciliation, puisque vous allez être entendu par le juge d'abord tout seul, et après madame va être entendue seule, le juge va vous dire, voilà, madame veut divorcer, et vous monsieur, même si vous dites, bah non, j'aime ma femme et je veux rester marié, bah, le magistrat, lui, va se baser sur les éléments qu'il y a au dossier. Et si dans les éléments qui seront versés par l'avocat de madame, il y a cette histoire de contrôle judiciaire pour des faits graves quand même de ce que vous êtes en train de dire, parce que vous m'avez parlé, en tout cas la qualification est grave, viol sur conjoint, voilà, c'est quand même grave. C'est peu probable qu'un magistrat dise ouais, ok monsieur, il y a pas de problème, je vais pas prononcer le divorce, vous voyez. Donc même si vous dites non, ça changera rien.
D'accord, ok.
Mais les faits, vous les contestez, c'est-à-dire que vous dites non, madame Amand, elle exagère ou tout ça est vrai?
Non, tout ça est faux. Moi, ce que je pense, c'est que maintenant qu'elle a, bah, depuis qu'elle a son travail, elle a obtenu sa nationalité, tout ce qui, bah, après tout ce qui va avec.
D'accord.
Et pour moi, c'est fait embobiner, parce que quand même, je pensais connaître mon épouse et avoir confiance en elle. Et du jour au lendemain, je me fais accueillir par la police.
Ouais.
Chez moi, et ils m'emmènent au tribunal.
Vous avez des enfants avec madame?
Oui, j'en ai 3.
Et donc, 3?
Moi, j'ai reconnu avoir eu une relation sexuelle avec elle, mais à aucun moment je l'ai contraint ni.
Alors, ce que je vous propose, si vous avez besoin davantage de d'explications, c'est peut-être de m'appeler hors antenne, puisque là, l'émission va se terminer. Je vous donne mon numéro. N'hésitez pas à appeler, hein, si vous avez d'autres questions. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire, mais c'est vrai que votre cas demande plus d'implication et d'analyse de la part de Maître Serran. Oui, Maître Serran. Oui.
Mmh, ouais, bon, complètement.
Bon, allez, vous êtes là vendredi prochain ou pas alors?
Alors, je sais. Alors, honnêtement,
là, j'ai vu un début de négociation. Bon, on aura cette discussion en antenne. Peut-être à vendredi, Maître Serran. On va parler de voyage dans un instant. On va partir à Hawaï.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.